Konferenzen, Enregistrementa zu aktuellen Themen.
Radio 100,7.
Ich darf euch heute ganz herzlich begrüßen auf diesem speziellen ersten Christjahr 2020, wo diese Mission an der Serie von Konferenzen eng erste Kehr diffusiert wird. Mein Name ist Carlo Link und ich wünsche euch besinnliche Momente an Begleitung vom Radio 100,7. Les Dimanches du Chant Grégorien sind wie alle Jahre am Oktober ein fester kultureller Bestandteil am Norden vom Land. Organisiert gibt sie von der Benediktinerabtei von Klief an dem Küb 521 von Mänisch. Wenn es der sanitären Situation gibt, ist hier den Akzent auf Furt gelöst mit zwei Konferenzen. Le Chant Grégorien, des Origines à nos jours, so war der nächste Viertreff vom 11. Oktober von der Olga Rudakova, Chef de Chœur vom Ensemble Vocal Lux Cantus von Paris, überschrieben. Anhand von Tonbeispielen, die sie in anderem selber vorgedrohen hat, hat das Publikum aber nicht ganz auf den gregorianischen Gesang verzichten müssen. Die Viertreffer lobt der Antenne, wo wir müssen aufkürzen, dafür könnt ihr aber zwei davon an enger Audio-File online lauschen, wie auch eine kurze Explikation zu den Dimanche du Chant Grégorien 2020 von der Artistin direkt vom Cube 521, der Odile Simon. Dort ging aber los gleich der Olga Rudakova.
Notre thème qui est annoncé aujourd'hui, donc c'est l'histoire du chant grégorien des origines à nos jours. Et ce thème, comme vous comprenez, est immense et essayer d'en parler en une heure, c'est comme essayer de parler du ciel étoilé. C'est bien trop vaste. Mais pourtant, donc, ce thème était demandé et il m'a beaucoup attirée, surtout quand j'ai essayé de le regarder des points de vue de mon expérience. Donc je suis chef de chœur et depuis plus de 20 ans, chef d'ensemble grégorien qui pratique ce chant et sur scène lors des concerts et aussi à l'église pendant les offices. Je suis aussi musicologue et professeure au conservatoire et je touche à l'histoire et à la pratique de la musique occidentale. Très souvent, j'ai entendu parler que l'histoire du chant grégorien s'arrête au seuil de la Renaissance avec l'invention de la notation à la portée et que le développement des musiques occidentales à partir de là est la cause du déclin de la décadence du chant grégorien et qu'il faudra attendre le 19e siècle pour qu'on le redécouvre. C'est vrai et pas vrai en même temps. Donc je vous propose de prendre un petit peu de recul. Il est vrai que chaque siècle, chaque époque tournait et transformait le chant grégorien d'après ses façons de faire. Nous allons en parler. Mais il est vrai aussi que chaque siècle trouvait dans cette source les moyens de nouvelles inspirations et des résonances répondant à sa vision du monde et de la musique religieuse. On peut dire que le chant grégorien passe à travers toute l'histoire de la musique occidentale, s'habillant à la mode de chaque siècle, mais en même temps sans perdre son identité. Il est document vivant qui s'inscrit pleinement dans le contexte de chaque époque. Nous allons donc évoquer les grandes étapes de l'existence du chant grégorien, mais seulement en les survolant, sans pouvoir citer tous les noms, toutes les réformes, surtout liturgiques, toutes les innovations. Je voulais commencer par un chant, le graduel Dirigatur Oratio Mea, Sic ut incensum in conspectu tuo Domine.
Thank you.
Donc, à l'aube de l'Église et de la liturgie chrétienne, ce sont les apôtres, donc les juifs, qui amènent dans la nouvelle institution leur expérience liturgique et musicale. Une expérience séculaire. Le cœur de la liturgie est la parole qui est chantée, cantillée. La cantillation biblique et psalmodique est le point de départ du répertoire musical chrétien. Pendant les premiers siècles, le culte chrétien se répand rapidement autour du bassin méditerranéen et plusieurs modes d'expression traditionnelle se mélangent, s'influencent, se retrouvent dans cette proclamation chantée. Donc c'est la psalmodie juive, mais aussi l'art oratoire antique, les pratiques mélodiques archaïques de la Méditerranée. Dès que l'empereur Constantin a reconnu le christianisme au 313, des liturgies en langue vernaculaire se développent partout, dans l'église syriaque, l'église copte, en Palestine, où on conserve encore la langue de Christ, l'araméen, à Rome, où on prie encore en grec. Les côtes italiennes sont sous forte influence de la tradition byzantine. Progressivement, au cours du IVe siècle, c'est le latin qui devient la langue officielle du culte chrétien occidental. Et il existe toujours une multitude de rites différentes, autant textuellement que mélodiquement, selon les régions. On est sûr aujourd'hui de l'existence d'au moins 5 rites principaux. C'est un chant hispanique ou visigothique, ou mozarabe, des chrétiens vivant sous la loi islamique. Un chant roman, qu'on nomme maintenant le vieux roman dans la ville éternelle et sa région, qui sera ensuite supplanté par le chant qu'on nomme le grégorien. D'ailleurs, en Italie, il y a plusieurs rites. Un chant du nord de l'Italie, milanéo-ambrosien, du nom de l'évêque de Milan, Saint-Ambroise, au IVe siècle. Un chant béneventin pour le sud de l'Italie, du nom du grand-duché du Bénévent. Le chant gallican, qui était très inspiré d'ailleurs par les traditions et les cérémonies orientales pour les territoires de la Gaule romaine. À la fin du VIe siècle, en 590, Saint Grégoire le Grand est élu pape et il commence une politique d'unification des liturgies. On lui attribue la rédaction d'un sacramentaire et de l'antiphonaire, c'est les recueils des oraisons de la messe et des chants de la messe. Mais comme c'est une époque de la tradition orale, on ne peut rien dire sur la nature de ces chants. Presque deux siècles plus tard, au milieu du 8e siècle, vient un moment exceptionnel qui verra naître la composition du répertoire qu'on appelle aujourd'hui le chant grégorien. Donc à cette époque, Pépin le Bref vient de renverser le roi mérovingien Childéric III et a besoin de légitimer ses coups d'État aux yeux des Francs. Il s'approche donc du pape Étienne II. Concrètement, Pépin le Bref s'engage à protéger les territoires pontificaux qui sont menacés dans le nord par les Lombards. Et en échange, le pape Étienne II, le sacre roi des Francs, en 754 à Saint-Denis. Pépin le Bref veut aussi consolider une unité politique de ses territoires et il envoie le moyen dans l'unité religieuse, qui est d'ailleurs aussi rêvée depuis longtemps par Rome. Pépin le Bref décrète l'adoption de la liturgie romaine dans son royaume. Et cette mesure sera rigoureusement renforcée par son fils Charlemagne. Et comment s'est-il passé en pratique? Donc on amène, on copie soigneusement les livres comportant les ordis et les textes des chants romains. On demande à Rome d'envoyer les professeurs, des chanteurs des Schola Cantorum. On forme des Schola Cantorum d'après le modèle de Rome, dont la célèbre Schola Metensis de la cathédrale de Metz. Un rôle très important dans la diffusion du chant roman est joué par les moines de l'ordre bénédictin et surtout par les abbayes impériales sous le patronage spécial de la dynastie au pouvoir. Quel en était le résultat musical de cette réforme est difficile à dire. Certainement, les textes du rite romain se sont imposés à la chrétienté occidentale, mais qu'y avait-il des chants romans? Une des hypothèses dit qu'il est probable que ce chant roman a largement emprunté aux traditions du chant local et surtout du chant gallican. Alors, très vite, ce nouveau chant sera qualifié de grégorien par référence à l'autorité du pape Saint Grégoire le Grand, mort bien avant, en 604. Vers la fin du 8e siècle, dans certains manuscrits, on lit un petit poème. Gregorius Presum meritis et nomini dignus. L'évêque Grégoire, digne par le nom comme par les mérites, a rénové les monuments des anciens pères et composé ce livre d'art musical pour la Scola des Chantres pour l'année liturgique. Et ce texte a été souvent accompagné d'une miniature où une colombe, symbole du Saint-Esprit, murmure à l'oreille de Saint Grégoire, visiblement ce nouveau chant. Le nom des chants Grégoire était pour le chant grégorien, c'est que le nom de Napoléon est au code civil. Il devait donner la référence, renforcer l'autorité du chant roman. Le but des poèmes était de dire que ce livre contient la vraie messe de Rome, le vrai chant de la liturgie romaine, le vrai chant des Grégoire. Ensuite, pour unifier les chants et pour, d'une part, éviter les influences de l'oralité et, de l'autre part, les transmettre sous une forme plus fixe, pouvoir les contrôler aussi, il fallait les codifier. Des mélodies jusqu'alors variaient selon les lieux et il est devenu nécessaire de les fixer pour rendre possible l'exécution quasiment à l'identique de la même pièce dans tout l'Empire romain. Et ensuite, c'est un procédé révolutionnaire qui est né à cette époque. C'est la naissance d'un procédé d'écriture musicale et de la notation musicale. Au début, c'est la notation dite pneumatique. C'est donc une sorte de signes qui apparaissent au-dessus des textes écrits, vous voyez donc ces signes, qui ne sont que l'aide-mémoire. Donc il faut savoir la pièce pour la chanter, mais c'est quand même, c'est un système de notation qui est très subtil, très à la fois simple et incroyablement subtil. Donc ça permet de fixer toutes les inflexions de la voix pour interpréter un texte. Moi, je dis toujours qu'ils essayaient de fixer pas le quoi, mais le comment. Donc, comment prononcer ces textes, comment le cantiller. Selon l'expression de Dom Cardin, c'était des gestes écrits, des gestes vocaux, pour lesquels le ductus de la plume a suivi le ductus de la voix. Ensuite, la notation musicale occidentale, petit à petit, d'un siècle à l'autre, se tourne vers un système de notation très rationnel, très mathématique. Vers le XIe siècle, la notation pneumatique évolue vers la notation dite diastématique, avec la précision des intervalles. Puis, au XIIe et XIIIe siècle, vers la notation dite carrée, sur quatre lignes, comme vous voyez déjà, c'est les quatre lignes, qui fixent les hauteurs des sons, et ensuite les durées des sons, leur longueur dans le temps. Et bien sûr, pour faire entrer le répertoire grégorien dans ces carcans qui ne lui étaient pas propres, il a fallu assez souvent déformer les lignes vocales des mélodies archaïques, de perdre les nuances des dessins rythmiques libres et très, comment on peut dire, fantasques, surtout dans les ornementations vocales qui sont très typiques pour les traditions orales. Je vais vous faire écouter, par exemple, un des chants très ornés, extrait des lamentations de Jérémie dans la tradition corse pour imaginer comment voulez-vous faire entrer, par exemple, ces chants en écriture. Como dos en el sonachimicas plena populo. Alors, le passage des neumes à la portée, comme on a compris, donc, a permis la naissance de l'écriture musicale. L'invention musicale perd en spontanéité, mais elle peut devenir plus en plus complexe et réfléchie, et plus facilement transmise aussi. Du 9e au 12e siècle, les chanteurs de la liturgie médiévale élargissent leur répertoire grégorien par de nouvelles compositions. Leurs textes et mélodies, là, seront des vraies nouvelles compositions franques. La Renaissance carolingienne est marquée par un formidable esprit d'invention. Et ce procédé d'invention musicale va dans deux directions. On ajoute des nouveaux chants sur les anciens et on superpose des niveaux des chants dans les polyphonies. Par exemple, des nouveaux chants sur les anciens. Ça, c'est les séquences, les tropes, les prosules. Ils ajoutent des textes avant tout au grand jubilus, au vocalise des pièces anciennes. Par exemple, l'offertoire grégorien Ave Maria commence par les grandes vocalises sur Ave et Maria. Ça sonne. Ave Maria. Et avec le trope, donc ça deviendra Arcangelica Maria famina salutantia sic fantura ave, etc. Donc les séquences, avant tout, ajoutaient des textes aux grandes vocalises, jubilus, d'Alléluia. Et jusqu'à l'an 1000, on connaît environ 150 mélodies différentes des séquences. Parmi ces compositeurs, notre Kerr Balbulus, notre Kerr Le Bègue, moine des Saint-Galles. Son Liber Hymnorum, comme il appelait le recueil de ses séquences, achevé en 884, était destiné aux principales fêtes de l'année liturgique des Saint-Galles et comportait des textes d'une quarantaine de séquences. Ces pratiques de séquences, tropes, prosules, préciser, commenter, élaborer les anciennes mélodies, donner les commentaires et en composer de nouvelles aussi. Et les exécutions des chanteurs médiévaux étaient vraisemblablement remarquables. Les nouveaux processus de composition étaient liés aussi, bien sûr, à l'acoustique des nouvelles églises, des grandes églises gothiques, dont les longues temps de réverbération favorisaient la polyphonie. Les premières formes d'organum, polyphonie à deux voix, sont déjà attestées dès la fin du 9e siècle. C'est l'organum parallèle, où les voix vont parallèlement donc à la quinte ou à la quarte. Ensuite, l'organum fleuri, quand la voix vox organalis ou organum, voix ornementée des vocalises arabesques, je ne sais pas comment dire, fioritures vocales, il chante au-dessus de la vox principalis, appelée le ténor, du latin tenere, car elle tient le chant grégorien, ou on l'appelait aussi cantus firmus, chant ferme, affirmé, dont le thème grégorien s'expose en valeur longue. Le sommet de cette forme de polyphonie est atteint par Léonin et Perrotin, deux maîtres musiciens qui travaillent dans la cathédrale Notre-Dame de Paris entre fin du XIIe et le début du XIIIe siècle. Leur composition présente une pratique organale à deux, trois et quatre voix. Une des compositions musicales les plus fameuses du Moyen-Âge est l'organum sur le graduel Viderunt omnes du maître Perrotin. Et là, vous voyez, donc, à la base, c'est donc le chant grégorien, donc la ténor qui est exposée en note longue. C'est comme « Viderunt omnes ». Donc ici, vous voyez « vi », le syllabe « vi », ainsi « de », qui est très longue, « runt ». On va écouter un extrait. Thank you. nous avons vu que les organes de l'école de Notre-Dame présentaient les notes des Cantus Firmus, de chant grégorien en longue durée. Et au XIIIe siècle, le Cantus Firmus est traité de nouvelles façons par une technique qu'on appellera l'isorythmie. La mélodie grégorienne des ténors ici se coupe sur des fragments rythmiques identiques. Je vous donne un exemple de la messe de Notre-Dame de Guillaume de Machaut. Par exemple, la mélodie grégorienne de ces Kyrie sonne comme telle. Kyrie. Machaut, il organise cette mélodie en 7 fragments rythmiquement pareils. Donc le rythme sera comme tel ta 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 ta. Donc cela bien évidemment transforme la physionomie du chant original. Donc la mélodie du ténor du motet sera donc telle Kyrie. Voilà, vous voyez que c'est la nouvelle façon de voir, de traiter le temps. Le XIIIe siècle aussi voit naître les premières grandes horloges en Europe. Donc le temps n'est plus soumis au rythme naturel, mais il est peut-être divisé, il devient lui-même le nombre. Écoutons un extrait de la messe de Sekire de Guillaume de Machaut. Le 12e et 13e siècle, c'est aussi la création des universités. Et la musique de l'Ars Nova et de la Renaissance peut être considérée comme l'apogée de la pensée musicale. Une apogée des points de vue des techniques de composition qui sont mises en œuvre. Une forme domine, c'est le motet polyphonique, qu'on peut même nommer polymélodique. C'est une composition qui superpose différentes voix humaines chantant simultanément deux ou trois textes différents et même en langue différente. Et toutes ces voix sont harmonieuses entre elles. Le motet était une sorte de métaphore de la vision idéale du monde à cette époque, une sorte de reflet de la perfection de la création. Et par exemple, je voulais vous montrer un motet de Guillaume du Failly, un des plus grands maîtres du XVe siècle. Il compose le motet « Nous per Rosarum Flores » pour l'inauguration de la coupole de la cathédrale de Florence en 1436. Et le cantus firmus de ce motet est le chant grégorien « Terribile est locus iste » de l'introïde grégorien de la messe de la dédicace. Terribilis est locus iste. Et Dufay, même double ses ténors, donc le présente en deux ténors, faisant une sorte de canon, qui reflète la construction des doubles coupoles des dômes de Florence, conçus par l'architecte Brunelleschi. Et les deux autres voix chantent par-dessus de ce double ténor une poème de Dufay même qui rend hommage à la Sainte Vierge de la Fleur, Santa Maria del Fiore, la protectrice de Florence. Écoutons aussi un petit exemple. Ça commence par deux voix supérieures, montées de ces triplons, et ensuite, un petit peu plus tard, entre les deux ténors. Consacrer une conférence d'ailleurs au sens de ces motets qui parfois ces motets c'est une homélie en soi donc mais donc continuons, la polyphonie à la Renaissance monte à son zénith. Donc la complexité qu'elle atteint à cette époque la place parfois au-delà de notre capacité de perception. Par exemple, une des pièces les plus extraordinaires de l'histoire de la musique, c'est Agnus Dei, finale de la messe d'Alessandro Striggio, un compositeur italien de la Renaissance, qui a composé un véritable tour de force. Il superpose 40 voix. Bien sûr que c'est l'apogée absolue, on peut dire, de la pensée polyphonique de la Renaissance, qui est niée elle-même par sa complexité et la densité qu'elle attend à cette époque. Et dès lors, il a eu, durant toute cette Renaissance, une vague des réactions contre cette complexité. Et cette réaction va de pair avec la grande crise de la Renaissance qui voit l'émergence des religions réformées en Occident. Luther et Calvin vont considérer que la liturgie catholique est devenue incompréhensible et, entre autres, qu'il faut rendre la musique d'église plus claire, plus simple, plus accessible pour les fidèles. Luther va créer un nouveau répertoire, un nouveau patrimoine musical que l'Assemblée sera capable de chanter elle-même. Et c'est une vraie révolution, on balaye le chant grégorien, cette base du culte catholique, et on le remplace par des nouveaux chants qui sont des psaumes, des cantiques, des chorales en langue vernaculaire. Et des côtés des catholiques, il y a bien évidemment une réponse. Entre 1545 et 1563, le concile s'est réuni à plusieurs reprises dans la ville italienne de Trente pour réfléchir à la manière de faire évoluer l'Église et entre autres la musique d'Église. Les pères du Concile appellent le retour aux sources Il conserve et réaffirme l'usage du latin et du chant grégorien, mais il remet déjà en cause les polyphonies. Déjà au XIVe siècle, la bulle de Jean XXII visant les compositeurs de l'Ars Nova stipulait « Ils coupent ces mélodies par des hoquets, ils souillent dès lors des chants et vont même jusqu'à y ajouter des triples et des motets vulgaires, c'est-à-dire en langue vernaculaire, et sous la multitude des notes obscurcissent les pudiques ascensions et les retombées du plan chant. » Voilà, c'était au XIVe siècle, mais on voit déjà bien tout ce qui sera repris au Concile de Trente plus tard. Donc une méfiance vis-à-vis de la polyphonie qui empêche à la clarté des paroles et conduit l'auditeur à se concentrer plus sur la musique en soi que sur le texte. Le Concile commande aussi abandonner les créations postérieures au chant grégorien, donc les tropes, les séquences, les ajouts textuels et les mélodiques, qui, d'après le Concile, entravent, gênent le sens premier du chant grégorien. Et des milliers de séquences composées à l'époque médiévale, des milliers de ces séquences, on a gardé seulement quatre qui sont entrées dans nos livres modernes des chants d'église. Les pères du Concile affirment le règne, la primauté du texte des chants grégoriens sur les mélodies. Et c'est d'ailleurs assez intéressant. Ils veulent que la prononciation de ces textes soit plus articulée. Ils se basent sur les règles de la rhétorique courante à l'époque, par exemple celle de la quantité syllabique. Donc les syllabes brèves chantées sur les notes longues doivent être déplacées, ainsi que les syllabes longues ne peuvent pas être chantées sur les notes brèves. Par exemple, dans Hec dies quam fecit Dominus, qui est le séjour que le Seigneur a fait, donc le graduel des Pâques, donc c'est Dominus grégorien, restitué d'après Solem, sont comme tels. Vous voyez que le syllabe non accentué, dominus, donc il y a grande milice vocalise sur nous, qui n'est pas le syllabe accentué. Et donc, la mélodie est refaite, arrangée de telle façon que do minus, le syllabe accentué, reprend la plus grande partie de cette milice. Do minus. Voilà, donc primat du texte à la musique. Au IXe siècle, le Concile carolingien, en 816, avait dit « Que la mélodie de leurs paroles enlève les cœurs du peuple rassemblé, non seulement par la noblesse des mots, mais par le charme des sons exprimés. » Et maintenant, c'est tout le contraire. Donc, il ne faut surtout pas de beauté excessive dans les mélodies grégoriennes. Les longues vocalises sont abrégées, même celle des jubilus, c'est-à-dire les vocalises solennelles de l'Alléluia. Et donc ces répertoires remaniés rythmiquement et mélodiquement a été publié officiellement par l'imprimerie des Médicis en 1615 et était connu sous le nom de l'édition médicienne. Et dans cette édition, l'Alléluia de la messe des Pâques, par exemple, ne comptait que 14 notes chantées. Mais ce qui est très intéressant, qui est juste 10 ans après la fin du Concile, à Florence s'organise la première Camerata Fiorentina, ou Camerata Bardi, et elle exprime les exigences pour une nouvelle musique. Et en fait, elle commence là où Concile de Trente s'arrête. Donc en effet, c'est le même devise. Prima les paroles, dopo la musica. D'abord les mots, ensuite la musique. Donc la musique doit servir le texte et non l'inverse. Il faut une nouvelle forme de l'écriture, un nouvel art, à la grecque, qui est la référence absolue de l'époque. Et de là naîtra un genre nouveau appelé l'opéra. parfois fameux et le Deus in auditorium mente, meum intende. Donc la pièce d'ouverture de Vêpres de la Vierge de Claudio Monteverdi. Et cette pièce est une véritable révolution. Donc elle date des 1610 et c'est une pièce a priori liturgique. Elle sert à ouvrir les Vêpres, mais pourtant on y entend une fanfare, une instrumentale, on entend les chœurs. Et ici, en effet, ces instruments, cette fanfare ne sont rien d'autre que l'ouverture de l'opéra Orfeo de Monteverdi. Donc, le passage du chant grégorien à la musique baroque, moi, je pourrais comparer à celui des icônes à la peinture religieuse. Donc, il y a plus d'exubérance, de couleurs, des détails. La musique baroque, la musique de la contre-réforme, cherche une nouvelle manière d'atteindre le même but, servir les mots à tout prix. Mais peindre les mots, ou, je cite un théoricien de l'époque, émouvoir son audience à travers son expression musicale reliée subtilement au texte. Et le développement de la musique polyphonique au XVIIe, XVIIIe siècle, de la musique d'orgue, des grands genres comme l'opéra, la cantate, l'oratorio, le concert, le nouveau motet, oblige le chant grégorien, le planchant, comme on le nomme à cette époque, à céder le pas à des répertoires nouveaux, aux motets polyphoniques, d'un style orné, au goût de la cour de Versailles, richement accompagné d'orgue ou d'orchestre. Aussi, la mélodie grégorienne Cantus Planus est présentée dans les livres des chants avec des notes en gros carrés qu'on met sur le lutrin. On pourrait dire, vous vous souvenez de quoi on a commencé avec la notation nomatique, et là on dirait un chant embaumé en quelque sorte. Il y en a beaucoup qui regrettent la corruption entre parenthèses du chant grégorien. Donc c'est Guillaume Gabriel Niver, l'organiste renommé de l'époque de Louis XIV, ou plus tard Jean-Jacques Rousseau, qui va donner la définition au chant grégorien dans son dictionnaire des musiques comme tel. Donc plan chant, c'est le nom qu'on donne dans l'Église romaine au chant ecclésiastique. Ces chants tels qu'ils subsistent encore aujourd'hui est un reste bien défiguré, mais bien précieux de l'ancienne musique grecque, laquelle, après avoir passé par les mains des barbares, n'a pu perdre encore toutes ses premières beautés. Il lui en reste assez pour être de beaucoup préférable, même dans l'état où il est actuellement, à ses musiques efféminées et théâtrales, ou maussades et plates, qu'on substitue en quelques églises, sans gravité, sans goût, sans convenance et sans respect pour le lieu qu'on ose ainsi profaner. Une des techniques courantes du planchant de cette époque est une technique appelée faubourdon ou cantus super librum, le chant sur le livre. Donc les chants d'église improvisaient des polyphonies simples ou plus complexes en mettant le livre des chants grégoriens, ces grands livres, sur le lutrin. Donc c'est la nouvelle façon polyphonique, homophonique, quand chaque syllabe du texte est enrichie par la sonorité des voix différentes, mais néanmoins le texte reste bien clair pour notre oreille. Ces chants sur le livre, cette pratique d'improvisation collective sur planchant a été très répandue dans les diocèses français et à la chapelle royale de Versailles ou à Notre-Dame de Paris, et c'est là jusqu'au 19e siècle. En ces mêmes techniques est écrit par exemple le célèbre Miserere de Gregorio Allegri, qui était chantre du chœur papal de la chapelle Sixtine. Ce n'est que la récitation du psaume 50 et la mélodie grégorienne s'alterne avec la polyphonie du faubourdon. On va écouter un petit extrait. D'ailleurs, au XIXe siècle, les parties des faubourdons seront souvent confiées ou remplacées par l'orgue.
Thank you.
Planchant continue aussi de nourrir le nouveau répertoire d'œuvres polyphoniques. Donc certaines pièces grégoriennes traduites en allemand entrent dans le répertoire luthérien. Par exemple, la séquence pascale grégorienne « Victime Pascal et Laudes », une parmi les quatre survécues à la réforme tridentine, elle devient en chorale luthérien « Christ lagen todes banden ». Vous voyez, Victime Pascali laudes immolent Christiani. C'est la séquence grégorienne et ça devient Christ lagen todes banden für uns resund gegeben. Bach et un nombre de compositeurs allemands y écrivent des cantates. Donc, nous allons écouter un extrait d'une cantate de Schein. Christ lagen todes banden. Mozart, il introduit la même mélodie des Victimes Pascales dans son Requiem. Donc ici, vous allez entendre que le chœur commence par Requiem aeternam. Donc ça devient ici une métaphore, un signe, une promesse de la résurrection. Écoutons. Je peux vous dire même plus qu'au milieu de ce même mouvement de l'introïte, nous entendons un solo de soprano sur les paroles Te decet hymnus Deus in Sion et Tibi redetur votum in Jérusalem. Et ces paroles sont mises aussi sur une citation musicale des psalmodies de Tonus Peregrinus grégorien, qui est surtout connu avec les paroles du psaume 113, psaume pascal in exitu Israël d'Égypte, Domus Jacob de Populo Barbaro. Je vais vous chantonner et ensuite je vais vous chantonner donc cette psalmodie et ensuite on va écouter cet endroit de chez Mozart. In exitu Israel de Egipto, Domus Jacob de Populo Barbaro. Et donc chez Mozart. c'est extraordinaire, je pense. Donc, nous te louons, Dieu d'Ancion, et élevons nos voeux dans Jérusalem. D'ailleurs, Mozart disait qu'il aurait donné toute son œuvre seulement pour avoir composé la mélodie de la préface romane. Alors, donc, le 19e siècle, à son tour, cherche avant tout à exprimer le sentiment religieux, mais le vrai, comme il dit. Donc, les compositeurs critiquent la situation de la musique dans les églises, ils cherchent à créer la nouvelle musique religieuse. Là, les chantres d'église et surtout les chantres du Lutran dans les villages reçoivent des vives critiques. C'est en 1835, dans son article intitulé « De la musique religieuse », Liszt écrit « Entendez-vous ces beuglements stupides qui retentissent sous la voûte des cathédrales ? C'est la psalmodie barbare, pesante, ignoble des chantres des paroisses. Que leurs voix sont fausses, rauques, abominables, que cet accompagnement a tort et à travers des bucans et des basses ronflantes et hideux et repoussants. Ne dirait-on pas des monstrueux insectes bourdonnant dans un cadavre ? » Liszt ne se contente pas d'y exprimer son vif dégoût. Il se tourne sur Abbé. Il s'installe à Rome et rêve de faire la réforme de la musique religieuse, de la régénérer sur la base du chant grégorien. Il s'agit de remonter au fondement, dit-il, et de pénétrer à ces sources vives qui réjaillissent jusqu'à la vie éternelle. Et les œuvres tardives de Liszt ne doivent rien à ces virtuoses pathétiques de sa carrière passée. Et en plongeant de plus en plus dans le chant grégorien, Liszt renouvelle son style de compositeur. Et comme dit son amie Caroline Wittgenstein, jette sa lance de compositeur loin dans le futur. Nous allons écouter un extrait de son œuvre Via Crucis, 14 stations à la croix. Effectivement, donc la station 7, Christ tombe pour la troisième fois. Vous allez entendre donc les voix d'hommes qui chantent Jesus Cadit, donc Christ tombe, et ensuite Stabat Mater Dolorosa, l'hymne grégorien, donc qui est repris par Liszt. Voilà, c'est une des 14 stations en entier. Le 19e siècle, c'est aussi la recherche intense des sources, des origines dans tous les domaines, archéologie, paléographie, architecture, iconographie, histoire, géographie. Et à l'abbaye bénédictine de Solesmes, dans la Sarthe, autour des années 1830, Dom Prosper Guéringer entreprend un travail titanesque de restauration des mélodies authentiques grégoriennes à partir des manuscrits les plus anciens. Et les moines de Solesmes recherchent les manuscrits médiévaux dans toutes les régions d'Europe. Les premières sont copiées à la main, puis des centaines d'exemplaires sont photographiés, puis microfilmés. Les moines recherchent les champs des origines, les vrais modèles, les archétypes. Leur connaissance des manuscrits anciens s'étoffant, les moines se lancèrent dans la publication des livres des chants, avec des mélodies restituées à partir de ces manuscrits. Et chaque pièce grégorienne préparée par Solesme pour ces éditions était basée sur une analyse comparative des sources des dizaines de manuscrits anciens. Voilà un exemple des tableaux synoptiques pour restitution de l'intonation de l'offertoire confirme Hoc.
Soweit der Vortrag von der Olga Rudakova von Paris, der Chant Grégorien des Origines à nos jours. Zweit ist zu fanden an einer Audiofile auf 100,7 in der Konferenzen. Mur um dieselbe Zeit habe ich euch auf den zweiten Vortrag im Kader von Les Dimanches du Chant Grégorien invitieren. Den Abt von der Kläfer Benediktiner Abtei Do Michel Giraud schwätzt zum Thema Le Sens Musical de la Joie Religieuse. Merci für Ihren Interesse. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen echten Christtag.
Radio 100,7.